Merci à toutes et à tous de venir ce soir écouter Emmanuel de Varesquiel, que nous avons le grand plaisir d'accueillir à la librairie pour son dernier ouvrage Fouché, Le silence de la pieuvre, donc qui nous livre ici une nouvelle biographie sur cette époque que vous connaissez bien maintenant, après avoir publié un magnifique Talleyrand en 2003 aux éditions Fayard, ainsi qu'un très beau livre sur les 100 jours qui vient de paraître en poche dans la collection Texto, des éditions Talendier. Alors on peut se dire que c'est une évidence finalement ce Fouché, et finalement en lisant l'avant-propos on apprend que vous n'avez pas suivi un conseil que Jean Tullard vous avait donné, qui était n'écris pas une biographie sur un homme que tu n'aimes pas.
Ouais, alors, d'abord, ce n'était pas une évidence au départ, parce que vous savez, la position initiale du biographe par rapport à son personnage peut varier en fonction des personnages. Je suis rentré probablement beaucoup plus facilement, si j'ose dire, en Talleyrandi qu'en Fouché-Itude. Je ne sais pas comment appeler ça, mais ça a été plus compliqué. D'abord, pour tout simplement peut-être des questions d'origine sociale, si je me réfère à ma mémoire familiale, Et au récit que me faisait ma mère, les transmissions se font souvent par les femmes. Fouché faisait partie de la catégorie des bourreaux, et dans un certain sens, si je prends quelques lointains ancêtres contemporains de la Révolution, ils étaient plutôt du côté des victimes. Donc il est probable que quelques camarades de Fouché ont dû traiter de façon un petit peu brutale quelques-uns de mes lointains aïeux. Donc ça aide pas, mais en même temps on se dit que d'abord la qualité principale à mon avis de l'historien doit être la curiosité, ça c'est un premier point, et puis on apprend jamais autant sur soi-même que lorsque on travaille sur des gens, sur des personnages qui vous sont profondément différents. Et c'est vrai que personnellement j'ai un rapport au pouvoir qui est quand même très léger, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai pas le culte du secret, plutôt celui de la transparence, et évidemment je n'ai ni tué le roi, ni fait tomber Robespierre, ni vécu sous la Révolution, l'Empire et la Restauration. Donc c'est ce que dit Le Goff à propos de son Saint-Louis. Comment écrire un Saint-Louis quand on n'a pas vécu au XIIIe siècle, qu'on n'est pas roi et qu'on n'est pas saint, ce qui pour Le Goff était le cas absolument. Cette position du biographe, elle peut différer, elle est différente en fonction des sujets qu'on choisit. Alors, ceci étant, j'ai passé un certain nombre d'années de ma vie avec le vice, c'est-à-dire avec le prince Boiteux, avec Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, et comme vous connaissez tous l'extraordinaire description que fait Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe de l'arrivée des deux personnages dans le cabinet du roi à Saint-Denis le 7 juillet 1815. Le vice appuyé sur le bras du crime. La vision infernale passe lentement devant moi et disparaît. Quand on s'est intéressé au vice, on doit s'intéresser un peu au crime. Je connaissais évidemment Fouché avant de travailler sur Talleyrand, ne serait-ce qu'on en parlait tout à l'heure, qu'à travers cette extraordinaire littérature romantique du 19e siècle, Fouché est constitué par son mythe, c'est le moins qu'on puisse dire, et il a été la coqueluche de tous les grands romanciers du 19e, à commencer évidemment par Alexandre Dumas, qui a créé des épigones de Fouché, notamment dans Une ténébreuse affaire et dans Les Chouans, et puis ensuite Victor Hugo, le personnage de Javert, l'inspecteur principal Javert est un émule ou un épigone de Fouché, jusqu'à Alexandre Dumas qui le met directement en scène, notamment dans La gloire de l'Empire et Le chevalier de Saint-Hermine, sans parler d'autres livres, Le comte de Monte Cristo de Dumas. Donc Fouché était présent et je dirais que dès mes premières années, j'avais appris à le connaître. Mais alors du côté de la légende, le travail de l'historien, et moi j'ai toujours été passionné par les personnages à légende et si possible la légende noire, j'ai jamais beaucoup aimé les personnages qui font pleurer dans les chaumières type Lafayette. J'aime bien les personnages dont le sourire est un peu grinçant et qui portent des masques. Et le travail de l'historien, c'est presque un travail de mécanicien, c'est-à-dire qu'on passe derrière les masques et les miroirs, on essaye de démonter et de remonter aussi près que possible de la vérité psychologique et de la vérité historique de son personnage, ce personnage qui se cache derrière sa légende et qui se cache aussi derrière des destructions d'archives considérables. Talleyrand a détruit ses archives en amateur. Fouché les a détruits en professionnel. Ça, pour le dire, c'est vraiment un professionnel de la profession de ce point de vue-là et du point de vue du très, très grand policier qu'il a été. Et il a passé sa vie à détruire systématiquement ses traces. Cet homme est tellement dissimulé qu'il est extrêmement difficile de l'approcher. C'est un long travail d'enquête. J'ai passé 7 années de recherche dans les archives autour de lui et puis là-dedans 2 années d'écriture. Ce sont évidemment de longs marathons absolument passionnants. On plonge dans des univers, on finit par connaître son personnage infiniment mieux que quelques personnes qu'on peut croiser dans la rue qui vous sont contemporains. Et c'est ça, je dirais, la passion du travail du biographe et de l'historien. La biographie, on en parlait tout à l'heure avec notre ami, étant un genre un peu particulier pour l'historien, et je voudrais dire un mot là-dessus avant de parler du déclic de ce livre. D'abord, très longtemps, la biographie a senti un peu le fagot, notamment dans les milieux universitaires. Le biographe était un espèce de maître Jacques qui s'est donné un peu à toutes les tâches et qui, au fond, n'en connaissait vraiment aucune. Il était à la fois historien de la société, historien de l'économie, historien de la politique, des idées, des représentations. Accessoirement, quand la psychologie est venue nous envahir un petit peu, mais dans le bon sens du terme, historien du cœur et de l'âme, mais historien de rien, au bout du compte. Et vous savez qu'il y a eu une longue tradition universitaire autour de l'école des annales qui a perduré jusque dans les années 70, qui considérait que l'individu ne comptait pas, que le singulier ne comptait pas et que l'histoire ne pouvait se comprendre et s'approcher qu'à travers des études sérielles, des chiffres et des nombres. Alors, s'agissant des chiffres, Fouché est bien placé aussi, mais c'est sur un autre plan. Donc, il y a eu du point de vue du grand public, toujours un succès de la biographie. Très souvent, on arrive à l'histoire par la biographie. Personnellement, je vous ai parlé de Balzac et des romanciers du 19e. Le déclic de ma vocation d'historien, ça a été la lecture, même pas d'un livre d'historien d'ailleurs, d'un essai de José Cabanis. Il n'est pas très loin d'ici, il était originaire de Toulouse, sur Charles X, qui s'appelait chez Gallimard en 1974, qui s'appelait Charles X, roi ultra, une écriture magnifique, une façon de s'emparer de son personnage extraordinaire. Et au fond, je suis arrivé à la biographie, à l'histoire par là. Donc la biographie est un vecteur important. Mais il est vrai que la biographie n'était accaparée, si j'ose dire, que par soit des hagiographes, soit des amateurs de l'histoire, et que les universitaires ont mis un certain temps à s'y attaquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une difficulté majeure, cette espèce de paradoxe de la biographie, c'est qu'à la fois, c'est la production d'une illusion, hein, la biographie, à la fois on agit comme historien, c'est-à-dire aussi scientifiquement que possible, en ayant un rapport aussi modeste et aussi honnête que possible avec ses sources, en les classant, en les triant, en les mettant en comparaison, en les analysant, et donc ça c'est, si vous voulez, le travail, je dirais presque plus d'artisan que de scientifique de l'historien, et puis de l'autre, on doit produire un récit. On doit essayer de faire en sorte que la ligne droite qui mène de la naissance à la mort d'un personnage n'est pas forcément la plus intéressante. Et donc, il y a une construction biographique. On met la lumière sur certains aspects de la vie de son personnage. On donne du rythme, on donne de la vitesse à certaines parties de sa biographie, plus de lenteur à d'autres, avec cette difficulté majeure qui est que la biographie, c'est comme un orchestre symphonique, si vous voulez. Il faut qu'on entende tous les instruments de l'orchestre, toutes les voix de l'histoire qui sont là, et ce qui n'est pas facile. Et en même temps, le biographe est un peu comme le cœur antique de ces voix, c'est-à-dire qu'il commente les voix. Donc, on produit un récit, mais en même temps, on commente le récit. Ça s'appelle l'arrêt sur image, ça s'appelle l'analyse de son récit. Et il faut que cette analyse ne pèse pas sur le récit. C'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à un personnage comme Fouché, qui est probablement l'un des personnages les plus importants de la Révolution française et de la partie la plus violente de la Révolution, qui est la Terreur, on ne peut pas, quand on suit Fouché en Révolution, entrer en Révolution, on ne peut pas ne pas s'interroger autour du personnage de Fouché sur des thèmes aussi intéressants, aussi passionnants d'un point de vue politique et du point de vue de notre modernité que la centralité jacobine des pouvoirs d'État à Paris, que l'expression même de terreur. Alors, moi, ma thèse sur cette question de la terreur, pardon, je pars un peu en vrille dans tous les sens, mais ce n'est pas grave.
C'est vous l'invité.
Mon point de vue sur la terreur, très longtemps, l'historiographie de la Révolution a été tenue de façon assez, je dirais, idéologique. Je pense personnellement que la terreur n'a pas véritablement, cette terreur de 93-94, n'a pas véritablement de contenu idéologique. Ce n'est même pas non plus un système d'organisation de l'État. Quand on voit Fouché pratiquer la terreur, du point de vue et comme s'il pratiquait la raison d'État, on voit que c'est une pratique de la terreur dont il use comme une arme politique. Et m'apercevant de ça dans les textes, parce que ce qui est passionnant dans le personnage, c'est que c'est à la fois un théoricien de la politique et un praticien. C'est un homme de réflexion et un homme d'action. C'est très rare d'avoir affaire à des personnages comme ça. Et ce dont je me suis aperçu à la lecture de ces textes, c'est qu'au fond, il prenait le mot de terreur dans le sens... Évidemment, c'est un homme des Lumières, de la raison et du XVIIIe siècle. Il est né en 1759. Donc, il prenait le mot terreur tel qu'il est analysé dans l'encyclopédie d'Hydrol d'Alembert des années 1740-1750. Terreur, exercer la terreur, c'est jeter l'effroi dans les rangs de l'adversaire. C'est vraiment une arme politique. Et d'ailleurs, la terreur est utilisée à la fois par les révolutionnaires, le mot, et par les contre-révolutionnaires. Donc, quand on regarde la terreur sous cet angle-là, et forcément, il faut en faire un peu l'analyse, on a évidemment une appréciation, une observation, une vision de la Révolution et de Fouché en Révolution très différente de ce qu'auraient pu avoir certains de mes anciens camarades de biographes de Fouché. Je pense à Louis Madelin qui a commis une grande thèse, une très grande biographie sur Fouché, mais en 1900. Et là aussi, je fais une petite parenthèse pour vous dire que le biographe ne vit pas dans une tour d'ivoire. Il est influençable et il travaille sous l'influence du temps, de l'ère du temps qui passe, de l'époque dans laquelle il vit. Et on ne pose pas les mêmes questions à Fouché, parce que la position de la question que l'on pose à son personnage est très importante. On ne pose pas les mêmes questions à Fouché en 2014 qu'on ne les posait en 1900 ou 1905. Et là aussi, ça explique au-delà des sources, on va parler des sources, évidemment, un évident renouvellement de la vision du personnage, hein, la position du biographe, le temps dans lequel s'inscrit le biographe. Et puis, troisième élément, et là on va peut-être en parler, les sources. Ce qui a fait le déclic pour moi, avec toutes ces difficultés que j'ai eues par rapport à un personnage dont je me méfiais, qui était littéralement habité par cette légende noire dont je me méfiais, cette méfiance que j'avais aussi d'entrer en révolution, alors que j'ai beaucoup travaillé sur des périodes postérieures, sur la mémoire de la révolution dans les périodes de monarchie constitutionnelle, sur l'Empire, sur la Restauration, sur la monarchie de Juillet, mais je m'étais jamais vraiment lancé dans la révolution, entrer en révolution. Ça, pour moi, ça a été une démarche compliquée et en même temps passionnante. Et ce qui a fait le déclic, alors je vais le raconter puisque vous m'aviez demandé de le raconter. C'est un coup de téléphone, en fait. C'était il y a 5 ans. Je commençais à tourner très sérieusement, à rôder avec un air très louche autour de mon sujet, de mon personnage. Je ne l'avais pas encore tout à fait empoigné, mais il m'intriguait de plus en plus. Je lisais de plus en plus sur lui. Et puis un soir, je reçois un coup de fil et je décroche le combiné. J'ai pas de portable, donc je ne travaille qu'avec les téléphones fixes, avec des fils, des vrais téléphones. Et j'entends une voix féminine au bout du fil. Et cette dame se présente, je ne dirai pas son nom, je ne la connaissais pas, et me parle un peu d'elle et me dit, écoutez, c'est un peu cavalier de vous appeler comme ça, je me permets de vous appeler parce que j'ai perdu mon père il y a quelques mois. J'étais un petit peu estomaqué quand même de ces confidences d'une inconnue comme ça un soir au téléphone. Et mon père m'a dit, peu avant de mourir, appelle Emmanuel de Varesquiel, car, ouvrez les guillemets, nous avons des archives. Et évidemment, ça fait bouillir le sang d'un historien. En réalité, son père était un lecteur du Talleyrand, avait très gentiment aimé la biographie de Talleyrand, et son père était le descendant d'une grande famille de notaires parisiens qui avaient été les notaires, non pas de Joseph Fouché, celui-là, mais de son fils, qui s'appelait aussi Joseph Fouché. Alors, à cause peut-être de l'ombre portée de la statue du commandeur de son père, le fils a fait le contraire de son père. Ça a été un bambocheur de première. Il a défrayé la chronique de l'opéra et des filles de l'opéra sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire. Et En particulier, il a dépensé toute la fortune, immense fortune amassée par son père après la Révolution sous le Directoire, le Consulat et l'Empire. Il a fini par faire des dettes et à la fin de sa vie, dans les années 1860, il a probablement négocié une partie des archives de son père avec son notaire contre des remises de dettes. Et c'est comme ça que cet extraordinaire fonds qui n'avait été vu par personne s'est retrouvé dans cette famille de notaires qu'il a précieusement conservé. Et c'est comme ça que j'ai reçu ce coup de téléphone. Et dans ces archives, donc on m'a expliqué très rapidement qu'il s'agissait d'archives qui concernaient Fouché. Et j'y suis allé, ça a été un véritable pèlerinage pour moi. J'ai passé 4 mois dans la région parisienne, prenant le train tous les matins à 9h pile, repartant à 6h du soir pile, avec un jus d'orange et un petit biscuit sec tous les jours à 4h, attablé à ma grande table de salle à manger dans cette espèce de maison qui sortait tout droit d'un roman de Modiano, grande maison bourgeoise en pierre meulière, vous savez, au fond d'un grand parc un peu abandonné, avec deux dames qui, par ailleurs, regardaient KTO toute la journée, ce qui était avec Fouché, était quand même une coexistence assez étonnante. Je découvre dans ce fond extrêmement riche deux choses absolument passionnantes qui m'ont permis probablement, en dehors de tout ce que je vous ai déjà raconté, de renouveler ma vision du personnage. La première chose, c'est ça concerne le personnage public. Il y avait dans ces archives l'intégralité, parce qu'il faut savoir que le ministère de la Police, quasiment créé par Fouché, a un budget c'est beaucoup, beaucoup plus important que ce dont on se plaint aujourd'hui et ce dont on parle aujourd'hui. Il a un budget officiel et il a un budget officieux. Le budget officieux représente 10 fois le budget officiel. Bon. Le budget officieux, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelait la caisse des jeux. C'est-à-dire qu'on autorisait, la police et l'État autorisaient l'exercice de maisons de jeu, mais contre un contrat en bonne et due forme avec les concessionnaires, les propriétaires de ces maisons de jeu et une redevance sur les recettes des jeux. Ces redevances allaient directement dans les caisses de la police et servaient à quoi ? Servaient à financer l'intégralité des réseaux d'agents secrets, et Dieu sait qu'ils ont été importants, utilisés par l'État, utilisé et créé par Fouché, et servait aussi à rémunérer la presse pour orienter l'opinion publique, servait à rémunérer un certain nombre de personnes qui étaient pensionnées et dont on achetait parfois le silence ou que l'on voulait récompenser. C'était des sommes considérables, autour de 9 millions de francs de l'époque par an. Et ce qui était extraordinaire dans ces archives, c'est que tous les comptes secrets de la police sur la caisse des jeux se trouvaient là de l'année 1798 à l'année 1806. Mais non seulement les compte avec les montants, mais ce qui était passionnant du point de vue de l'historien, c'est qu'on avait tous les noms avec toutes les filiations des réseaux et les filiations révolutionnaires. Ce qui était intéressant, et c'est une des découvertes que j'ai faites, c'est que Fouché, constitué par la Révolution, grand terroriste de son État, a conservé autour de lui, c'est en ça que Napoléon disait « Vous êtes la Révolution incarnée », a conservé autour de lui tout le personnel révolutionnaire qu'il avait côtoyé, qu'il avait croisé en 1793 et 1794. Vous connaissez tous Fouquier-Tinville. Fouquier-Tinville, le président du tribunal révolutionnaire de Paris, l'homme qui juge Louis XVI, qui juge Marie-Antoinette, qui juge beaucoup d'autres, le duc d'Orléans. Fouquier-Tinville est passé à la guillotine assez rapidement après la chute de Robespierre, Thermidor en 2 juillet 1794. Il y a un autre personnage que personne ne connaît et qui, lui, a terminé dans son lit, très riche et tout à fait bien portant, si j'ose dire, si on peut mourir bien portant, c'est le général Parrain. Le général Parrain était un camarade de Fouché et lui, c'était l'équivalent de Fouquier-Tinville au tribunal révolutionnaire de Lyon. Vous savez que si on prend la période mars 1793, juillet 1794, il y a eu beaucoup plus de guillotinés à Lyon qu'à Paris. La terreur lyonnaise a été beaucoup plus importante. Ce général Parrain présidait, donc l'alter ego de Fouquier-Tinville à Paris, présidait le tribunal révolutionnaire de Lyon et lui, protégé par Fouché, inscrit, pensionné par Fouché, agent secret de Fouché sous le directoire, le consulat et l'empire, passe à travers les gouttes d'eau, passe à travers toutes les périodes et meurt tranquillement, richissime, sous la Restauration. Voilà à quoi servaient aussi, dans un certain sens, ces fidélités révolutionnaires. C'était tout simplement de survivre, car après, quand on a percé, à la faveur ou pas à la faveur de la Révolution, encore faut-il, et ça a été tout le dilemme de Fouché, pouvoir résister et survivre. Toute la vie de Fouché a été une guerre menée non pas contre des principes, je vous en parlerai tout à l'heure, mais contre des hommes. Une guerre contre Robespierre, qu'il finit par faire tomber, il n'était pas tout seul, mais il a largement participé à la chute de Robespierre en juillet 1794. Une guerre contre Barras, qui a été au départ son protecteur et qui lui met le pied à l'étrier, lui permet de prendre le ministère de la police en 1798. Très vite, une guerre contre Bonaparte, devenu Napoléon. Les rapports entre les deux hommes, on pourra en reparler, sont des rapports extraordinaires. Une guerre contre Talleyrand, une guerre contre les frères et les sœurs de Napoléon, et puis finalement une guerre contre Louis XVIII. Car pour résumer en forme d'introduction le personnage, c'est non seulement c'est un homme d'État, c'est un aventurier, c'est un conspirateur, ce qui est beaucoup pour un seul homme, mais en même temps c'est vraiment l'homme du plus extraordinaire des grands écarts de l'histoire. C'est l'homme qui à la fois contribue à faire monter un roi sur l'échafaud et qui va devenir le principal ministre du frère de ce même roi. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Il tue, entre guillemets, Louis XVI et il est le ministre de la police de Louis XVIII en juillet 1815. Voilà, je m'arrêterai là pour l'introduction de cette petite conférence.
Mais brillante introduction, donc on est plutôt ravis de...
Puis il faut que je vous laisse me poser des questions.
Mais les gens sont là pour vous écouter. J'aimerais revenir justement sur le début de la biographie, comme toute biographie... Qui se doit vous parler de l'enfance, une enfance qui est assez intéressante quand même pour Fouché. C'est en plus une période de la vie de vos personnages que vous aimez particulièrement. Première question, en quoi cette enfance révèle peut-être le caractère de Fouché? Mm-hmm. Et deuxième question, ce qui est assez intéressant quand on lit la description physique de Fouché, c'est qu'on sent une véritable similitude entre l'esprit et le corps. Est-ce que vous pouvez nous dire justement peut-être ce qu'incarnait aussi ce Fouché physiquement auprès de ses contemporains?
Alors je commence par la deuxième question. Voilà, parmi tous les personnages qui m'ont intéressé, sur lesquels j'ai travaillé, voilà vraiment un personnage qui, comme on dit, à la tête de l'emploi, avec sa dégaine de faux témoin, ses yeux de poisson bouilli, sa bouche sans lèvres, son teint à presque blafard, sa grande stature comme ça, il mesurait, je l'ai découvert au coin d'une archive, il mesurait 1m75, ce qui était très grand pour l'époque, cette espèce de grand corps squelettique, tout en redant et en saillant, avec des pommettes extrêmement creuses. Le portrait que nous avons mis sur la biographie Les Silences de la Pieuvre est, à mon avis, c'est pour ça que je l'ai choisi, il était en plus tout à fait inconnu, le plus proche du point de vue de la description psychologique qu'on peut faire d'un personnage à partir de son portrait. Donc voilà pour le physique. Et c'est un réel, ça je peux vous le dire, pour un biographe, c'est un réel plaisir de faire des portraits physiques de ces personnages, parce que je crois qu'en effet qu'il y a des correspondances entre l'intérieur et l'extérieur, entre le physique et la psychologie de quelqu'un. Ce qu'il avait à l'intérieur finit par ressortir. Et là, on va parler de son enfance. Alors, une petite parenthèse, et je reviens un peu en arrière. Quand on est jeune historien, il y en a quelques-uns ici, on n'ose pas aller à la pâte humaine, on n'ose pas triturer les os, la chair et le sang. On est d'abord respectueux de l'enseignement qu'on a reçu et on considère que le travail de l'historien est un travail dans la distance. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. C'est un travail dans la distance. Mais il est certain qu'en vieillissant, ce qui est mon cas, année après année, on finit par prendre des risques et puis surtout par s'intéresser de plus en plus, je dirais, à l'intérieur de son personnage et donc à sa stature psychologique. Et je pense que plus encore que Talleyrand, plus encore que Richelieu, la psychologie de Fouché a été vraiment l'un des fils conducteurs de la biographie. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert à ce propos-là? Plusieurs choses s'agissant de son enfance. Je pense qu'en effet, que ce soit des anonymes, nous autres, ou des personnages qui sont sur le devant de la scène, de très grands hommes d'État comme Fouché, sont constitués par leur enfance. Tout se passe pendant l'enfance. Et Fouché, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est un homme, c'est un jeune homme, un enfant qui est traversé très vite par des failles. Il perd son père alors qu'il n'a pas 10 ans. Trois de ses frères et sœurs meurent alors que il est dans ces âges-là. Il entretient probablement une relation très exclusive et très fusionnelle avec sa mère, relation dont on sait très peu de choses, parce qu'à propos d'archives détruites, il a pris bien soin à ce qu'aucune lettre qu'il a écrite à sa mère ou que sa mère lui a écrite ne subsiste dans aucun fonds d'archives que je connaisse, en tout cas. Donc c'est très difficile à savoir. Mais on sent que voilà un enfant qui vit littéralement dans une atmosphère de silence, de solitude et même, je dirais, de mort. D'autant plus que l'une des découvertes que j'ai faites, s'agissant de sa famille, c'est une famille de la petite bourgeoisie des environs de Nantes, dont la fortune ou le début de la fortune est lié à la mer et au commerce maritime. Mes prédécesseurs avaient bien vu que le capitaine Fouché, le père de Fouché, qui s'appelait Joseph, vous savez, on reprenait les prénoms d'une génération à l'autre, était un capitaine de navire. Mais ce que j'ai découvert en travaillant dans les inscriptions maritimes de Nantes, c'est que c'était un capitaine de navire négrier. Le début de la fortune de Fouché, c'est le commerce des Noirs. C'est le commerce triangulaire. J'ose pas trop en parler dans une ville comme Bordeaux, mais peu importe. Mais en tout cas, c'est tout de même pas un détail de l'histoire, cette affaire-là, parce que quand on sait que Fouché, qui par ailleurs a été l'inventeur des fêtes révolutionnaires, qui a passé sa vie à organiser des fêtes sur des thèmes abstraits, comme vous savez, ce qui était assez déconcertant du point de vue de ceux qui y assistaient, invente entre autres une très grande fête à Lyon en mars 1794, en l'honneur de la libération des Noirs, et que dans un geste spectaculaire, sur une tribune dressée place des Brotteaux, il libère les esclaves de leur chaîne. Quand on sait que ce même homme est le fils d'un capitaine de bateau négrier, on a du grain à moudre et des réflexions à avoir sur l'ambivalence du personnage, sur la nature même du personnage. Ce jeune Fouché, cet enfant qui va par ailleurs être mis par sa mère pour des raisons physiques de difficultés de santé, on apprendra, et j'ai appris par la suite qu'au fond il avait la tuberculose, et ça aussi c'est pas innocent, cette lutte permanente de l'homme contre sa maladie qu'il va tenir à distance, cette tuberculose, il va finir par mourir à 60 ans, la maladie va le rattraper quand il n'aura plus le pouvoir est comme un écran entre lui et la maladie. Alors l'homme a deux attitudes par rapport à la maladie. Soit il s'abandonne à sa maladie dans la douleur, dans le dolorisme et dans les larmes, soit il la combat et dans un certain sens, il mène une guerre contre lui-même. Toute l'histoire de Fouché, c'est l'histoire de cette guerre qu'il a menée contre lui-même. C'est un homme qui ne s'aime pas et qui partant parfois n'aime pas les autres, pas tous les autres, mais certains autres, en tout cas ceux qu'il a affrontés sur la scène politique et sur la scène publique, et qui ne s'aimant pas a essayé de trouver son absolution ou une compensation par l'ambition et par le pouvoir. L'ambition et le pouvoir sont chez Fouché, qui vont finir par le constituer littéralement, sont autant de masques au fait qu'il ne veut et ne cherche pas et refuse absolument à se montrer dans ses faiblesses, dans son désamour, et probablement aussi, même certainement, et ça je l'ai découvert à travers les lettres qu'il écrit à ses enfants, dans son hypersensibilité. Alors évidemment, c'est un vrai paradoxe pour un biographe de poser un personnage qui, littéralement habité par sa légende, qui a été considéré jusqu'à présent comme un homme absolument dépourvu d'affect, on le compare toujours à un serpent, comme un homme d'une froideur absolue, qui pratique toute sa vie la raison d'État, de le présenter tout à coup comme en réalité un hypersensible. C'est la thèse du livre, et ça explique beaucoup de choses de cette ambivalence de Fouché. Fouché public et Fouché homme privé ne sont pas les mêmes, et les rapports que Fouché entretient avec ses enfants me font penser quasiment au père Goriot dans Balzac avec ses filles. C'est-à-dire que c'est un espèce de papa poule qui littéralement se laisse martyriser par ses enfants sans autorité, alors que c'est par excellence l'homme de l'autorité, de la restauration de l'autorité de l'État. Hein. Ça, c'est très troublant. Et je citais cette phrase tout à l'heure quand on se parlait. Je suis par ailleurs un grand lecteur de romans et un amateur de littérature, et même quelquefois littéraire à mes heures perdues, ou même peut-être un peu dans la biographie, parce que je considère que l'écriture biographique doit être littéraire, que écrire une biographie, c'est produire un récit, encore une fois. Il y a une phrase de Borges, qui est un de mes romanciers préférés, que j'aime beaucoup, qui dit « Mes personnages sont doubles et le vrai, c'est toujours l'autre ». C'est ça Fouché, et c'est ça qui est passionnant.
Et est-ce que ce vrai, justement, qui prend vraiment place dans le sein de sa vie privée, avec notamment sa bonne Jeanne, qu'il aima éperdument, et ses enfants, qui seront notamment le dernier rempart qui le tiendront à la vie dans les années d'exil, est-ce qu'on est en droit de penser que sans ce soutien-là, il n'aurait peut-être pas été le roc inébranlable de sa vie publique ?
Oui, il tire une force absolument extraordinaire, notamment de la présence de sa femme. Cette bonne Jeanne est un personnage totalement romanesque aussi, mais alors vraiment, on est dans Balzac tout le temps, dans Edgar Poe aussi, et dans Eugène Sue aussi d'ailleurs, sans parler de Dumas que j'ai évoqué tout à l'heure. Bonne Jeanne est la fille d'un notaire de Nantes, toute la famille va entrer en révolution avec Fouché, ils vont s'entraider, il l'épouse en 1792, le lendemain de son élection à la Convention, premier échelon de l'ascension vers le pouvoir. C'est pas innocent, parce que socialement, au fond, les deux familles sont assez différentes. Les Quacos, cette bonne Jeanne Quacos, les Quacos, c'est une très bonne famille de la très bonne bourgeoisie nantaise, blanchie sous le harnais de la basoche, d'office, des offices et du Parlement, alors que Fouché, le fils d'un tout petit capitaine de navire, donc il y a déjà une différence sociale. Bonne Jeanne sera totalement effacée par rapport à lui, très aimante, elle est aussi laide que lui, elle est très avaricieuse. Barras fait d'elle un portrait d'une méchanceté absolue, elle était rousse, mais elle était aimante, fidèle, et elle l'a suivie partout, y compris jusqu'au cœur de la Terreur, dans toutes ses missions. Quand il va à Lyon, quand même pour mitrailler quelques personnes pleines d'ébrotos, elle est là. Quand il a sa première fille, là aussi la mort le traverse tout le temps, il perd trois de ses enfants. Sa première fille qui naît à Nevers, alors qu'il est représentant proconsul de la Convention à Nevers en 1793, est baptisée Nièvre, et il y a un grand baptême public qui est organisé, c'est aussi un acte politique que ce baptême, et elle est là, elle est tout le temps là. Elle mourra en 1812, Fouché la pleurera littéralement. On n'est pas sûr qu'il ait été aussi fidèle avec sa deuxième femme qu'avec la première, mais en tout cas, il y a cette espèce de force qu'il tire certainement de la présence. Fouché est très moderne du point de vue de l'organisation des pouvoirs d'État, du point de vue de la création de l'État moderne, de la modernité, de l'opinion publique, on pourra en parler, il y a tellement de thèmes, c'est tellement riche, mais il est très réactionnaire en ce qui concerne sa vision et ses rapports aux femmes, et toute la Révolution. Les révolutionnaires, les jacobins, ont une vision, regardez ce qui est arrivé à certaines femmes en Révolution, hein, qui ont été Olympe de Gouges, par exemple, qui ont été guillotinées manu militari. Il a une vision très bourgeoise, très Diderot, si j'ose dire, de la place de la femme. La femme est là pour élever ses enfants, pour la couture et la cuisine, quoi, grosso modo. Elle ne fait pas de politique. C'est aussi là un paradoxe. Hein. C'est cette vision très classique, très, très, très passéiste de la femme d'un côté, et cette vision en même temps extrêmement moderne de l'État.
Tout en ayant des amitiés féminines assez fortes.
Tout en ayant de très très grandes amitiés féminines, et dans un certain sens, il y a là une part de vanité sociale. Le parcours, du point de vue du parvenu, du point de vue de l'ascension sociale, le parcours de Fouché est vertigineux, beaucoup plus que Talleyrand. Talleyrand naît avec une petite cuillère dans la bouche. Ses parents, quand les parents de Talleyrand étaient à la cour, quand sa mère était dame pour accompagner le dauphin et son père menin du dauphin, les Fouché étaient dans la crotte. Donc vous voyez la différence d'ascension. Fouché part littéralement de rien et arrive à tout. C'est quand même le deuxième, au point de vue du pouvoir et de la puissance, c'est le deuxième homme de l'État sous l'Empire. Hein. Et comme la grande nation et l'Empire est de très très loin la première puissance du monde, c'est le deuxième homme en puissance de l'ensemble du monde politique de l'époque. Donc ce n'est pas rien.
Non, et ça c'est vraiment, on le sent d'ailleurs, le fait que c'est un homme qui s'est fait tout seul, qui sait qu'il doit tout à lui-même, ça c'est vraiment une caractéristique qui se fera sentir dans les moments notamment vraiment décisifs. J'aimerais qu'on revienne sur la période de l'oratoire à Arras, hein, qui est vraiment une période assez intéressante, où Fouché mène une vie de moine, même s'il ne prête pas serment. Il est toujours à la limite.
Non, il n'y a pas de serment. Hein. Il n'est pas consacré.
Non, c'est faire ses vœux. Voilà. Mmh. Donc il reste toujours...
Oui, il en prêtera beaucoup, par ailleurs, des serments.
Qui ne tiendra
pas toujours.
Vous
pouvez lui enlever celui-là.
Et dans cette vie à l'oratoire d'Arras, il se fait notamment ses amis les plus fidèles, ceux qu'il conservera avec lui jusque sous Napoléon, pour certains. Et il y rencontre déjà un certain Robespierre. Est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts de cette De cette au départ amitié possible, après tout, Fouché a failli épouser Charlotte.
Oui, c'est un... Alors, avant de parler des rapports de Fouché et de Robespierre, juste une petite remarque, mais qui n'est pas innocente. Qu'enseigne Fouché à l'oratoire ? La congrégation de l'oratoire, c'est la première congrégation enseignante en France avant la Révolution. C'est très important. Les jésuites sont débarqués sous Louis XV dans les années 1740, 1750, si mes souvenirs sont bons. Et l'oratoire, il est façonné par l'oratoire. Il y a beaucoup de choses. Hein. L'oratoire créé par Bérulle dans la lutte à l'époque de la lutte contre les protestants. Il y a cette centralité à laquelle Fouché est resté fidèle. Il y a aussi cette notion de l'égalité. Et puis, il y a quelque chose de très particulier dans la théologie oratorienne, c'est la solitude des rapports à Dieu et l'objection de conscience. Et quand on sait que Fouché a été toute sa vie aussi un extraordinaire frondeur, avec des prises de risques absolument incroyables, parce que là, quand je vous parlais de l'aventurier, à deux ou trois reprises, on est dans un roman policier, avec des couloirs sombres et des portes dérobées, hein, et Fouché disparaît pour éviter de se faire couper la tête. Ça lui est arrivé quand même quatre ou cinq fois dans sa vie. Il y a cette influence-là de l'oratoire qu'il ne faut pas négliger à propos de la constitution, de la formation du jeune homme. Et puis, il y a aussi le fait qu'il a été professeur de mathématiques. Et ça, alors, je ne sais pas si vous avez lu les livres de Kessler, il y a certainement une propension de Fouché comme mathématicien à mettre la société en chiffres et en fiches. Hein. Et il y a certainement un rapport entre les deux. L'équation mathématique est devenue pour Fouché une équation sociale. Et si Fouché, je vous ai dit, est l'inventeur de beaucoup de choses du point de vue de l'organisation de la société, c'est aussi l'inventeur des statistiques et de la mise en fiche des individus. Vous savez, c'est à la fois l'homme qui construit la démocratie, pardon, je vais revenir à Robespierre, mais c'est en même temps l'homme qui en invente les garde-fous, et pour le meilleur et pour le pire. Mais tout ce qui relève du contrôle de la mobilité, l'invention du passeport, c'est Fouché, son uniformisation, la statistique, la surveillance, évidemment, ce qu'on appelle le principe de précaution aujourd'hui. Tout ça, Fouché en est un peu le père fondateur. Comment vivre en démocratie et contrôler cet ensemble d'individus en démocratie, d'individus isolés les uns par rapport aux autres, quand on a détruit l'organisation et les ordres de l'Ancien Régime. Bon, donc, fermons la parenthèse, Robespierre. Il va aller dans plusieurs collèges, et l'un de ses derniers collèges, où il sera toujours professeur de maths, est le collège d'Arras. Et là, on sait qu'en 1787, se trouvait à Arras Robespierre, Maximilien, qui était avocat, qui commençait déjà à avoir une certaine réputation, qui avait plaidé des causes tout à fait pour le maintien des paratonnerres, par exemple, tout à fait dans l'esprit des Lumières. Et il va y avoir une amitié qui va se former très très forte entre Fouché et Robespierre, à tel point que Robespierre étant vivant, il était très proche de l'oratoire parce que son oncle était le médecin du collège de l'oratoire d'Arras, l'oncle de Robespierre. Et Robespierre vivait avec sa sœur Charlotte. Charlotte n'était pas très jolie, mais ça c'était bien avant son mariage avec Bonne Jeanne, dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a eu certainement un projet des fiançailles, un projet de mariage entre Fouché et Charlotte Robespierre. Et puis ça ne s'est pas fait. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que Robespierre pensait que socialement Fouché n'était pas à la hauteur, c'est pas impossible. En tout cas, ça va introduire dans les rapports que vont entretenir ces deux hommes jusqu'à la guillotinade finale de Robespierre hein, en 94, des rapports d'amour-haine qui sont très étranges et très fascinants à étudier. Et des rapports de pouvoir et de lutte de pouvoir entre les deux aussi.
Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette séparation ?
Quelle différence entre les deux hommes ?
Cette séparation finale, finalement, entre les deux au moment de la Révolution. Comment on peut expliquer un déchirement pareil ?
Si on peut l'expliquer. Ils ont au fond une conception assez similaire de la Révolution française, de la centralité révolutionnaire, de l'égalité, de la Révolution totale. Peut-être que Fouché va plus loin. La Révolution, pour Fouché, c'est pas seulement la transformation de la société, mais c'est la transformation intérieure de l'homme. La régénération doit toucher l'individu lui-même, l'intérieur. L'homme révolutionnaire doit se régénérer lui-même avant de penser à se régénérer en société. Ça, c'est vraiment très important chez Fouché. Donc, la Révolution totale, il y a un texte absolument passionnant parce que, encore une fois, c'est un théoricien de la politique qui s'appelle Instruction de la Commission provisoire de gouvernement de Lyon de novembre 1793, où il parle de révolution totale. La révolution, elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle et elle est individuelle. Et elle est aussi, évidemment, elle relève de la confession de l'individu. Fouché a été un des plus grands déchristianisateurs. Alors, je ne pense pas que l'opposition entre Fouché et Robespierre porte sur la question de l'être suprême et sur la question religieuse. Je pense que c'est simplement une question. Ils ont été tellement proches du point de vue de la conception de la centralité révolutionnaire qu'à un moment donné, Fouché organise une centralité comme représentant en mission à Lyon. Robespierre, à la tête du comité de salut public, organise sa centralité parisienne et il y a véritablement un choc de pouvoir qui se passe entre les deux hommes. C'est pas, même pas une lutte de faction, c'est une lutte de pouvoir entre les deux hommes. D'où l'attaque de Robespierre sur certains de ses représentants en mission, à commencer par Fouché, dont il commence à parler comme de traître et comme d'homme en collusion avec les puissances étrangères. Là, c'est le commencement de la fin. Il y a une espèce de face-à-face entre les deux hommes qui est d'une violence absolue, notamment... D'abord au Club des Jacobins, qui était la grande affaire rue Saint-Honoré, et puis ensuite à la tribune de la Convention. Et ça se termine, évidemment, Fouché n'est pas le seul, par la chute de Robespierre, ce qui ne veut pas dire que dans l'esprit de Fouché, la terreur ne devait pas continuer. Au contraire, Fouché a été un de ceux qui ont prôné le maintien et la continuation de la terreur après la chute de Robespierre en juillet 1994.
Oui, au nom du principe républicain, il était vraiment prêt à tout.
Au nom du principe de l'égalité et considérant, parce que la terreur ne s'exerce pas de façon, comment dire, gratuite, elle s'exerce parce que tout simplement cette jeune République est menacée. Quand la terreur commence à s'exercer à partir de mars 1993, la République est menacée aux frontières, elle est en guerre avec l'Angleterre, elle est menacée aux frontières de l'Est et du Nord par les armées autrichiennes et prussiennes, elle est en insurrection quasi totale dans tout l'ouest de la France, avec le début de l'insurrection vendéenne, et dans tout le Midi. Toulon est occupé par les Anglais, Toulon est en insurrection, Marseille aussi, Avignon aussi. Et il y a donc, c'est pour ça que je vous parle de la terreur comme d'une arme politique. Hein. Il y a donc cette espèce de nécessité absolue de survivre, de faire en sorte que la République survive.
Tout à fait. À la fin du directoire, avant l'arrivée de Napoléon, enfin de
vengeance, c'est le maître mot hein, de la terreur révolutionnaire, vengeance.
Avant l'arrivée de Bonaparte sur la scène politique, on sent un Fouché un peu plus discret qui se met peut-être un petit peu en retrait. Est-ce que c'est véritablement un effacement ou est-ce qu'il est déjà en train de préparer le grand rôle politique qui l'attend ?
Bah, il ne se met pas en retrait, on l'oblige à se mettre en retrait. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'un homme de pouvoir que de ne plus avoir le pouvoir. Et Dieu sait, on en connaît quelques-uns à l'heure actuelle qui méditent la question. Fouché aussi, très profondément. Et il n'a plus le pouvoir tout simplement parce qu'il est décrété d'accusation et qu'en 1795, il est victime de ce qu'on appelle la réaction thermidorienne, c'est-à-dire cette espèce de retour de bâton après la chute de Robespierre et qu'il est décrété d'accusation à la Convention en août 95. Et alors, mes prédécesseurs biographes pensaient qu'il avait été mis en prison. En réalité, il n'aime pas la prison. Il a envoyé beaucoup, beaucoup de monde en prison, mais il n'aimait pas y aller lui-même. Et donc, il s'est caché. Et puis, petit à petit, il a été ce qu'il fera de tant de personnes, il a été lui-même une sorte d'agent secret au service de Barras. Et il a, de près ou de loin, travaillé dans l'ombre à ses multiples soubresauts du directoire, à commencer ses multiples coups d'État, à commencer par le coup d'État de Fructidor en 1797. Et petit à petit, il va se rapprocher du pouvoir, il va rentrer en grâce progressivement. Mais quelle patience et quelle énergie et quelle extraordinaire... force de caractère, hein, après tout ce qu'il a vécu, jusqu'à être nommé ambassadeur à Milan, puis à La Haye, puis, grâce à Barras, qu'il va trahir quelques mois plus tard, ministre de la police du directoire en 1799. Et c'est là où on sent que le directoire est dans une situation extrêmement proche de l'anarchie, que le régime ne durera pas, qu'il est à bout de souffle, comme disait Sieyès, qui était l'un des directeurs, nous avons besoin d'un sabre pour mener pour remettre de l'ordre dans la maison et réorganiser les pouvoirs d'État, les recentraliser et faire en sorte qu'on arrive au bout du compte à restaurer la paix civile qui n'était toujours pas restaurée, la paix religieuse, la paix civile et la paix sociale. les uns et les autres ont des candidats. Rien n'est plus évident qu'un événement lorsqu'il est advenu. Donc on imagine que Bonaparte est le candidat naturel et évident du coup d'État de Brumaire en 8. Mais il y avait beaucoup de clients, beaucoup de généraux, beaucoup de sabres, comme disait Sieyès, qui postulaient à cette remise en ordre de la maison républicaine. Et le candidat de Fouché n'était pas Bonaparte. C'était un général qui va se faire tuer en Italie, qui s'appelait Joubert, très belle figure d'ailleurs, qu'il avait connu quand il était ambassadeur à Milan. Et au fond, dès le départ, avant même le coup d'État de Brumaire, les relations de Bonaparte et de Fouché sont compliquées.
C'est une merveilleuse transition, c'est exactement le point que je
voulais
aborder avec vous. Donc, ils passent quand même une décennie ensemble, avec un rapport souvent conflictuel, des rapports à la fois sur le plan de la vie politique et sur le plan de la vie privée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire d'amour des amours qui finalement est toujours liée au pouvoir, dont la soif est toujours inassouvie pour l'un comme l'autre?
Fouché trouve que Bonaparte est trop ambitieux. Il se méfie de lui dès le départ. Il trouve que cette faculté d'incarnation qu'a Bonaparte, cette faculté d'incarnation au fond ne le plaît pas. Fouché n'est pas du tout l'homme de l'incarnation, il est l'homme de la nation, il est l'homme de la multitude et de la nation, vraiment. Hein. Et dès le début, alors que Bonaparte, qu'il a connu avant l'expédition d'Égypte, parce que Fouché fait des affaires après la Révolution, très vite, avec tout ce que le monde des munitionnaires aux armées compte de Ingerleau, d'Ouvrard et autres. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. En tout cas, il est actionnaire d'une compagnie qui va subvenir aux fournitures militaires de l'armée d'Angleterre, dont Bonaparte était le général en 1798, puis de l'armée d'Égypte. Donc évidemment, contrairement à ce que disent mes prédécesseurs, ils se connaissaient bien avant le retour de Bonaparte d'Égypte et le coup d'État de Brumaire. Il se méfie immédiatement de lui. Et lorsque Bonaparte s'impose à son retour d'Égypte, avec toute cette aura des campagnes d'Italie, puis de l'expédition d'Égypte, comme le sauveur, il va faire mauvaise fortune, bon cœur, et il va finir par... Mais alors, la position de Fouché, qui est ministre de la police, qui contrôle tout à Paris au moment du coup d'État de Brumaire, est une position, c'est vraiment le rapport du chat et de la souris. Il ne s'engage pas, mais il sait tout, et il attend. Et au moment où ça tourne en faveur, parce que ça se passe sur deux jours, hein, le 18 et 19 Brumaire, le 18 ça se passe bien, le 19 Brumaire à Saint-Cloud, ça, on crie hors la loi, hein, les 500 dans leur orangerie de Saint-Cloud qui soi-disant seraient sautés par la fenêtre pour s'égayer dans le parc de Saint-Cloud, il a failli tout de même louper son coup d'État Bonaparte en Brumaire en 8. Fouché contrôle la situation, regarde et décide de se prononcer au dernier moment. Il y a une scène étonnante que je raconte dans le livre qui se passe trois jours avant le coup d'État. Pardon, je suis un peu long, mais il faut sentir l'air du temps aussi dans une biographie. Il y a quelques conjurés dont Fouché n'est pas. Mais il sait qui sont les conjurés, dont Talleyrand est évidemment, et puis un certain nombre de très proches de Bonaparte, Arnaud, Regnault de Saint-Jean d'Angély, Réal et puis d'autres. Et Fouché ne trouve pas mieux que d'inviter tout le monde dans un grand dîner ministériel qu'est Voltaire, trois jours avant le coup d'État, en sachant avec Bonaparte qui est l'invité d'honneur. Il lève son verre en l'honneur de Bonaparte, sans évidemment, il n'est jamais question du coup d'État qui va avoir lieu dans quelques jours. Et il y a l'un des conjurés qui est là, assis à la table, en face de Fouché, et qui se tourne vers son voisin et qui dit « Mais il suffirait qu'il fasse fermer les portes de la salle à manger, il nous met tous en prison et c'est terminé. » Et donc, il y a cette espèce de jeu de chat et de la souris auquel Fouché s'est adonné toute sa vie est typique du personnage. C'est-à-dire, je ne participe pas, j'observe, je sais, j'ai le pouvoir et la puissance parce que je sais. Et je peux agir si je veux agir. Mais je n'agis pas parce que peut-être je vais passer de votre côté et participer à l'affaire. Ça, c'est Fouché.
Et c'est ce qui fait qu'il est aussi perçu comme une menace.
Oui. Alors, donc, vous voyez comment commencent les rapports entre Fouché et Bonaparte. Ce n'est pas des rapports simples. Ce sont des rapports d'extrême méfiance. L'alliance que nous, les deux hommes, est une alliance tactique. Il est certain que Fouché, par ailleurs, a été un extraordinaire serviteur, un homme plus qu'un serviteur de l'État, un homme d'État qui organise les pouvoirs d'État dès le consulat et qui participe à l'organisation de la paix civile pris en sandwich entre deux factions. factions qui sont d'une part la faction royaliste, les tentatives par exemple de la rue Saint-Nicaise, de l'explosion de la rue Saint-Nicaise en 1800, le complot Cadoudal, Moreau, Pichegru en 1804, et d'autre part les Jacobins. Fouché est pour Bonaparte une caution révolutionnaire. Bonaparte a toujours considéré qu'il était la révolution incarnée et qu'il tenait les Jacobins, que l'avoir avec lui était plus important, bien sûr beaucoup moins risqué que de l'avoir contre lui, parce que Fouché était une puissance du point de vue de la remise en ordre de l'agitation jacobine et de l'opposition jacobine. Il y a cette phrase extraordinaire que vous connaissez peut-être, qu'on a prêté à Bonaparte, à Napoléon et à Fouché. Napoléon, par ailleurs, détestait les Jacobins. Il avait une certaine admiration pour Robespierre, mais il détestait tous ces terroristes de 1793. Et puis, il était devenu de plus en plus royaliste, Napoléon, avec le temps. Il finissait par aimer Louis XVI. Et donc, alors qu'il reprochait à Fouché pour la énième fois d'avoir contribué à tuer Louis XVI, mais vous avez voté la mort du roi, dit Napoléon. Et Fouché, sans se démonter, lui répond « Oui, sire, et c'est même le premier service que j'ai pu rendre à votre majesté. » C'était ça aussi les rapports entre Napoléon et Fouché. Et Napoléon, qui se méfiait épouvantablement de lui, au-delà des services qu'il a pu rendre, de cette extraordinaire quand même paix sociale que Fouché arrive à instaurer sous le consulat, Bonaparte a ce mot, dit « Comment voulez-vous que j'ai confiance en un ministre qui un jour fouille dans mon lit et l'autre dans mon portefeuille ?» Il est vrai que les deux hommes avaient ce qu'on pourrait appeler, Barras le dit d'ailleurs dans ses mémoires, le génie du soupçon l'un vis-à-vis de l'autre, et que Bonaparte a passé sa vie à monter des contre-réseaux de police contre sa propre police. La police de Bonaparte avait fini par devenir la police de Fouché lui même. Et donc, il y a cette espèce de guerre des polices qui naît. On parle souvent de ces guerres des polices au XXe siècle, mais ça commence à ce moment-là. Et les deux hommes se méfient terriblement l'un de l'autre. Ça finira par non seulement une méfiance, mais aussi probablement une jalousie. Et ça finira par une première disgrâce en 1802 et une disgrâce définitive en 1810. Oui, enfin, on ne peut pas rentrer dans tous les détails parce qu'on n'y arrivera pas.
Le livre est tellement dense, il nous faudrait la soirée, mais quand même fait important, c'est l'importance de Fouché, oui. dans l'implication de la vie privée de Napoléon. C'est lui qui pressent ce que doit devenir l'Empire et va agir pour amener Napoléon à divorcer de Joséphine, qui pourtant est son ami avec qui la protège et qui la même finance presque. Oui. Et il a même une incidence sur le mariage futur pour oui. l'empereur. Il a un rôle important dans la vie privée.
Oui, oui, absolument. Il connaît tous les frères et sœurs de Napoléon par cœur. Il rend des services, à commencer par Joséphine. On sait que Joséphine était toujours perclue de dettes et Fouché, toujours la fameuse caisse des jeux dont je vous parlais tout à l'heure, Fouché contribuait à payer les dettes de Joséphine contre, évidemment, quelques renseignements et quelques services. Et il connaissait tout, en effet, certainement jusqu'au lit et aux histoires de lit des uns et des autres. Et le fait de savoir ces secrets qui étaient déjà à l'époque des secrets d'État, qui le sont de moins en moins aujourd'hui, les posséder, c'était posséder une part de pouvoir. Mais au-delà de ces affaires de famille sur lesquelles Fouché a beaucoup joué, en jouant les uns contre les autres, les frères de Bonaparte contre Joséphine, puis ensuite Joséphine contre les frères de Bonaparte, ne rentrons pas dans les détails. Ce qui est intéressant aussi dans les rapports de Fouché à Bonaparte, ce sont les rapports de principe. Beaucoup de mes prédécesseurs ont considéré que Fouché était un opportuniste à tout craint et qu'il avait passé son temps à retourner sa veste. En effet, il a servi plusieurs régimes et prêté, comme on l'a dit tout à l'heure, quelques serments. Mais au-delà de ce qu'il le dit d'ailleurs de façon très juste dans ses mémoires, la politique, c'est la morale des circonstances. Alors ça, c'est quand on a dit ça, on a tout dit. Mais au-delà de ça, au-delà de cette phrase-là, au-delà, je dirais, du machiavélisme, du double jeu, du cynisme de Fouché, il y a des principes. Et ma thèse, c'est un des fils conducteurs aussi du livre, c'est de dire que Fouché, au fond, est constitué par la Révolution et qu'il ne l'abandonnera jamais et qu'il va rester fidèle aux principes révolutionnaires quasiment jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, c'est important. Et quand on lit les notes, les rapports secrets qui n'avaient pas été lus jusqu'alors de Fouché à Bonaparte jusque sous l'Empire, on s'aperçoit qu'il met en garde en permanence Napoléon contre une dérive impériale et monarchique et qui lui rappelle sans cesse ce qu'il appelle l'élan de 1789, c'est-à-dire les principes révolutionnaires, c'est-à-dire évidemment l'égalité, le peuple, la centralité, la la prédominance du pouvoir, ce qu'il appelle le pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Fouché s'est méfié de Bonaparte aussi à cause de ça, parce que du point de vue militaire, il avait peur que cela tourne à l'avantage des militaires sur le pouvoir civil. Fouché, c'est vraiment l'homme de la nation en armes, hein, de l'appel au peuple. C'est-à-dire, on arme les civils, on arme les citoyens, mais on ne crée pas une armée de métier. Il a toujours été hostile à ce principe-là. Et voilà encore un point de divergence entre Fouché et Bonaparte. Donc il y a ce rappel constant de Fouché des principes révolutionnaires qui fait, je dois dire, on peut éprouver beaucoup de choses pour Fouché, y compris peut-être que parfois du dégoût. Mais là, ça provoque de l'admiration.
C'est en cela aussi où il s'avère vraiment être un visionnaire et un homme complètement moderne. On a des fois le sentiment, en vous lisant, une avance sur son temps. On a le sentiment qu'il a compris certaines choses avant tout le monde, qu'il a pressenti les événements. L'affaire du mariage, du second mariage de Napoléon, où lui défend la cause russe en disant « si on s'embarque dans une guerre, on n'en sortira pas oui. ». C'est quand même incroyable de...
Oui, mais c'est les hommes d'État, et c'est valable pour Talleyrand aussi, de cette stature-là ont souvent un aspect visionnaire, et ça a été certainement le cas de Fouché. Fouché devient, comme Talleyrand d'ailleurs, à partir de 1805, 1806, un homme de la paix, et prêche la paix à Bonaparte, comprend l'isolement, le risque d'isolement que représente la construction de ce qu'on a appelé le système napoléonien, le système impérial, et cet enchaînement, cette espèce de fuite en avant, et cet enchaînement de coalitions qui se forment les unes après les autres, en réaction à la conquête, à l'extension infinie de l'Empire jusqu'aux monarchies familiales à Naples avec Murat, en Westphalie avec Jérôme, en Hollande avec Louis, en Espagne avec Joseph. Et Fouché va plaider contre l'entrée de Napoléon en Espagne, puis contre l'expédition de Russie, bien entendu, le commencement de la fin, comme disait par ailleurs Talleyrand. Alors, à propos de relations entre les hommes, j'aime beaucoup faire des portraits croisés dans mes livres de plus en plus. Alors, évidemment, ce portrait croisé entre Bonaparte et Fouché, mais il y a aussi, bien sûr, le portrait croisé entre Fouché et Talleyrand, hein, le crime et le vice, comme dirait Chateaubriand, encore une fois. Et là, c'est extraordinaire. Alors, je peux résumer ça parce qu'on va être trop long, mais je peux résumer ça par deux mots. L'un de Talleyrand sur Fouché et l'autre de Fouché sur Talleyrand. Dès le consulat, Talleyrand dit de Fouché... un ministre de la police est quelqu'un qui s'occupe d'abord de ce qui le regarde et ensuite de ce qui ne le regarde pas. Ça, c'est le premier mot. Et le mot de Fouché sur Talleyrand, vous le connaissez. Quand Talleyrand est nommé vice-grand électeur de l'Empire en 1807, Fouché répond « le seul vice qui lui manquait ». Voilà, on peut après rentrer dans beaucoup, beaucoup de détails, mais les deux hommes sont si différents et en même temps ont cette espèce de communauté, de passion pour le pouvoir.
Ce qui
rend leur coexistence très dangereuse.
Qui arrivent à les rassembler, ils savent se soutenir.
Alors,
mutuellement.
Alors, il y a des alliances tactiques régulières entre les deux hommes à la fin du directoire, et puis il y a cette fameuse scène de 1808-1809 où les deux hommes, pour la première fois, alors que par ailleurs Napoléon s'efforce de les maintenir en opposition, en attisant les oppositions entre les deux hommes, alors qu'il est en Espagne, tout d'un coup, on les retrouve bras dessus dans les salons parisiens, et les rumeurs enflent immédiatement et parlent de complot, que ces deux hommes s'allie et s'associe est un mauvais signe en ce qui s'agissant de la pérennité de l'Empire. Et puis ça se termine par cette grande scène de violence où Fouché est épargné, mais Talleyrand disgracié en janvier 1809 aux Tuileries, la merde et le bas de soie, mais je vous passe les détails, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'Empire.
Je me permets de vous le demander, mais je sais que vous le citez parfaitement bien, le bon mot de Chateaubriand lors de la première rencontre officielle, en tout cas, entre Talleyrand et Fouché auprès de Louis XVIII.
Alors ça, c'est plus tard. Oui,
c'est plus tard, mais c'est
alors, il y a la disgrâce de Fouché en 1810, la chute de l'Empire auquel Fouché participe en travaillant pour le comte de Murat contre Napoléon, en participant au retournement de Murat qui fait alliance avec les Autrichiens et qui abandonne son beau-frère en 1813-1814, le retour des Bourbons et puis ensuite le vol de l'aigle, les 100 jours, et le deuxième retour des Bourbons en juillet 1815. Et à ce moment-là, Fouché est président du gouvernement provisoire de la France. C'est la période la plus extraordinaire de sa vie, où tout de même cet homme sauve littéralement la capitale en signant une convention d'armistice avec les Alliés, c'est-à-dire avec Wellington et Blücher, qui occupe, vous savez, Paris brûle-t-il, c'était pas seulement en 44, hein. Blücher en juillet 1815 avait l'intention de miner tous les monuments publics de Paris et de faire sauter la capitale. Il y avait une revanche à prendre sur l'humiliation de la Prusse, de l'entrée de Napoléon à Berlin en 1806, sur l'occupation française en Prusse qui a été extrêmement rude, et la grande idée des Allemands et des Prussiens, c'était une idée de revanche, et c'était de faire payer aux Français ce que les Français avaient fait subir aux Allemands et aux Prussiens entre 1806 et 1813, jusqu'à la bataille de Leipzig. Donc Fouché a joué un rôle incroyablement salutaire et a préservé, au fond, en partie, la ville de Paris de ce désir de vengeance des Prussiens, en négociant beaucoup avec Wellington, dont il était très proche. Et bon an, mal an, cela a fait qu'il est devenu et qu'il a su devenir le jeu politique de Fouché entre juin et juillet 1815 est absolument ébouriffant. Ébouriffant. C'est dans sa vie politique, c'est probablement le moment le plus dangereux, le plus équilibriste, et le plus extraordinaire, le plus multiple jeu qu'il ait joué de toute sa vie politique. Et ça, c'est vraiment intéressant à raconter et à observer. En tout cas, il finit par passer tellement pour l'homme essentiel, pour l'homme qui a en main les cartes du destin de la France, qu'il va finir tout de même par se faire accepter comme ministre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme ministre de Louis XVIII, qui n'en voulait pas. Il a ce mot à Talleyrand, lorsqu'il envoie Talleyrand chercher Fouché pour que celui-ci prête serment. « Prince, ménagez-moi, c'est mon dépucelage. » Parce que Louis XVIII avait la langue assez verte aussi. Tout cela, en général, c'était comme ça dans les conversations privées. Et donc, il y a cette extraordinaire scène racontée par Chateaubriand. Chateaubriand n'a jamais été meilleur dans ses mémoires d'outre-tombe que lorsqu'il est frustré, jaloux et compromis. Et au fond, quand Chateaubriand voit arriver Fouché avec Talleyrand dans les appartements du roi à Saint-Denis le 7 juillet 1815, à la veille de l'entrée du roi à Paris, il sait que lui ne sera pas ministre. Et donc il est furieux. Et la fureur a toujours aiguisé le talent de plume de Chateaubriand. Et il y a cette extraordinaire scène, c'était le vice appuyé sur les bras du crime, la vision infernale passe lentement devant moi et disparaît. Bon, je ne vous cite pas toute la phrase, mais c'était un des plus beaux, des plus extraordinaires et des plus méchants passages des Mémoires d'Outre-Tombe. Et en effet, Fouché devient le ministre de Louis XVIII. Et en même temps, Fouché fait peut-être le pas politique de trop, le grand écart de trop qu'il n'aurait pas dû faire, pense pouvoir, il est tellement constitué par le pouvoir que peut-être qu'il perd un peu de sa lucidité par rapport à celle qu'il avait jusqu'alors, et qu'il pense qu'il va pouvoir tenir la situation, notamment contre la réaction ultra-royaliste, contre la contre-révolution. Vous savez que les historiens ont qualifié cette période de terreur blanche en référence ou en vis-à-vis de la terreur révolutionnaire de 93-94. Ça a été une période extrêmement violente, avec contre les coupables du retour de Napoléon et les révolutionnaires, et pire encore, si on a été les deux, avec cette réaction extrêmement violente contre les hommes de la Révolution et les hommes des 100 jours, qui ont fait finalement chuter Fouché. Les dernières années de la vie de Fouché sont extraordinairement touchantes au fond. C'est un homme qui perd pied et qui en même temps croit désespérément et passe sa vie à se réorganiser, à se réinventer dans des écrits hagiographiques pour pouvoir plaider sa cause et en espérant un jour retrouver le pouvoir. Et c'est le fait de ne pas avoir retrouvé le pouvoir qui finit au fond par le faire mourir en exil. Il est exilé à partir de 1816. Il est comme une âme errante qui circule, qui voyage de ville européenne en ville européenne dans une espèce de maison de verre de la surveillance générale européenne, car on continue à se méfier de lui, et les sbires de Louis XVIII, les sbires de Metternich, les sbires d'Alexandre sont toujours à ses trousses. Il est littéralement poursuivi par une meute d'espions jusqu'à la fin de ses jours, et il voyage de Dresde à Linz, de Linz à Prague, et puis finit par échouer dans cette espèce de confin de bout du monde qu'était la ville de Trieste, au fin fond de l'Adriatique en 1820, où il va finir par mourir. Comme c'est un homme qui est littéralement constitué par sa légende et qui a été presque, je dirais, enseveli dans sa légende, on a évidemment inventé l'ultime légende, qui est aussi l'ultime coup de pied de l'âne au personnage. Et on a considéré, étant mort en décembre 1820, on a imaginé cette scène extraordinaire du transport du cercueil de Fouché de son palais du centre de Trieste vers la cathédrale San Giusto, qui était sur les hauteurs de Trieste, par jour de grand vent. Et ce vent aurait renversé le cercueil de Fouché qui se serait ouvert. Et bien entendu, le cadavre aurait mordu la poussière. Bien, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup trop beau pour être vrai. C'est une légende qui a été inventée dans les années 1860-70. Mais cela explique à la fois que le personnage était intéressant parce qu'il est à double fond à cause du poids de la légende et ces mythes noirs qui tournent autour du Fouché. Et ça explique aussi indirectement le titre que j'ai donné, parce que peut-être que la question me sera posée, que j'ai donné à mon livre, Les silences de la pieuvre. Au fond, c'était une forme de clin d'œil en direction de ce rapport du personnage à sa légende et une façon de renouveler la légende. La légende de la pieuvre n'est pas contemporaine de Fouché. On a comparé Fouché à son époque à toutes sortes de bêtes carnassières. La hyène, le lynx, le renard, le loup, le tigre, la panthère, sans parler du serpent. Il y a cette phrase extraordinaire aussi de Chateaubriand qui décrit Fouché au Club des Jacobins en 1793. Dans le cercle des bêtes féroces, Monsieur Fouché était une hyène habillée. Donc vous voyez, il y avait toutes ces comparaisons du point de vue du mythe, mais jamais la pieuvre. Pourquoi la pieuvre ? Pourquoi est-ce que j'ai parlé des silences de la pieuvre ? Parce que Victor Hugo, quelques années plus tard, dans les années 1860, écrit un roman admirable que vous connaissez, qui s'appelle « Les travailleurs de la mer », et fait de cet animal, par ailleurs tout à fait silencieux et inoffensif, un véritable monstre marin, sans, comme dit Victor Hugo, sans chair et sans os, ce n'est qu'une peau. La pieuvre, ce n'est pas le centre de l'inquiétude, c'est l'inquiétude elle-même, capable de réagir dans la surprise et dans l'effroi. Et donc, cette pieuvre qui passe au rang de mythes inquiétants, de mythes dangereux, va finir par devenir l'un des mythes les plus prégnants de la fin du 19e et du 20e siècle. À chaque fois qu'on a affaire à une organisation secrète, transnationale, à velléité hégémonique, on a affaire à la pieuvre, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la Drangheta ou la Camorra ou la mafia, ou tous les services secrets peu possibles et imaginables, de la CIA en passant par quelques autres. Donc j'ai trouvé intéressant, en forme de clin d'œil, de restituer Fouché à un mythe moderne qui, au fond, le prolonge du point de vue du rapport au mythe.
Tout à fait. Et en vous lisant, on en prend réellement conscience. Je voudrais finir cette conférence avant de vous laisser la parole pour rendre hommage à votre écriture qui vraiment met en valeur tous les propos qui ont pu être tenus ce soir. Et je vous assure qu'il est aussi intéressant à lire qu'à écouter. Et donc voilà ce que vous écrivez au sujet de la mort de Fouché. Il y a des morts que l'on regrette. Celui-là ne l'a pas été. Fouché s'est éteint dans l'indifférence de beaucoup et les sarcasmes de quelques-uns. Voilà maintenant presque un siècle et demi que Joseph Fouché, régicide des ducs d'Otrante, repose au milieu de son domaine évanoui, depuis longtemps éparpillé et dispersé au feu des enchères, comme un roi sans royaume et sans divertissement, comme si une main invisible et familière l'avait condamné pour toujours à l'exil. Je crois que le rendez-vous entre la littérature et la biographie se ressent parfaitement dans ces mots-là.
Merci beaucoup, mais pour lire ça, il faut avoir lu les 700 pages qui précèdent, je vous signale.
Mais ça se lit tout seul. Merci beaucoup.